Alors dans la première partie de cette session, le titre c'est Foi et intelligence, et en fait l'objet de cette journée c'est d'essayer de comprendre l'importance du travail de la catéchèse, de la théologie. C'est d'essayer de comprendre, oui, c'était l'évangile de dimanche dernier, où le scribe demande au Christ quel est le plus grand commandement. Il lui dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence. Ou bien on traduit aussi de tout son esprit. Donc c'est d'essayer de savoir quelle est la réponse de l'homme à la révélation de Dieu. Comment est-ce que l'homme met son intelligence au service de Dieu? Et puisque c'est ce qu'on va essayer de faire pendant 3 jours, c'est important de prendre le temps, on va le voir, de découvrir ce que c'est que l'intelligence, et ensuite de se demander comment mettre cette intelligence au service de Dieu, dans la révélation chrétienne. Pour nous, c'est important de s'arrêter, vous voyez, à cette première étape, qui est ce qu'on appelle de la théologie fondamentale, qui est d'essayer de comprendre, est-ce qu'il est possible de parler de Dieu? Est-ce qu'il est possible de faire de la catéchèse? Est-ce qu'il est possible de faire de la théologie? C'est d'autant plus important pour nous que la diversité des connaissances humaines est beaucoup plus vaste qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 200 ans. Vous voyez, si on essaye de voir quelle est la diversité des formes de connaissances que l'homme a aujourd'hui, on doit se demander de quel type de connaissances relève la foi et la théologie ou la catéchèse. Vous voyez, si vous essayez de faire l'inventaire des types de connaissances. Autrefois, c'était simple, il y avait la connaissance humaine et puis il y avait la foi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il y a toujours la connaissance humaine qui est une connaissance immédiate. Avec tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette connaissance immédiate, elle est de moins en moins immédiate. Et elle est enveloppée d'une connaissance médiatisée dans tous les sens du terme. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quantité de choses que l'homme croit connaître de manière immédiate et ne connaît que par un autre. Tout le problème des médias, c'est très important de voir que le problème de l'existence des moyens de communication change le statut de la connaissance quotidienne. Nous n'avons plus une connaissance quotidienne semblable à celle de ce qu'avaient les hommes en France il y a 200 ans. Pourquoi ? Parce que notre connaissance la plus élémentaire, notre connaissance de la cuisine, notre connaissance des meubles, notre connaissance de ce que vous voudrez, des couvertures, elle n'est plus simplement immédiate. Elle a un statut qui est complètement différent à cause de cet enveloppement d'une connaissance qui ne me demande pas la permission pour rentrer chez moi. Qui fait que, on le sait, aujourd'hui, la connaissance de n'importe quelle réalité, la plus simple qui soit, elle est marquée consciemment ou inconsciemment par ce monde qui est celui des moyens de communication. Et donc j'ai à faire d'autant plus attention à distinguer quel est le rapport que j'ai avec, on va le voir, quel est le rapport que j'ai avec le réel dans la connaissance immédiate. Quel est le rapport que j'ai avec le réel dans cette connaissance qui passe par les moyens de communication. Donc vous voyez, même la connaissance immédiate, elle n'est plus tout à fait aussi simple. En plus, pour nous, il y a la connaissance scientifique. Qui évidemment est lié à une communication, un lien de parenté avec la. Il véhicule beaucoup mieux la connaissance scientifique que la connaissance immédiate. La connaissance scientifique, elle est ou de science positive ou de science humaine. Et on sait bien que c'est très important pour nous de savoir quelle sera la rencontre entre la foi. Et les sciences humaines, quelle sera la rencontre entre la foi et les sciences positives? Et tous ces débats, toutes ces conférences qu'il y a sur science et foi. peut se poser la question de savoir est-ce que c'est la vraie manière de poser le problème, est-ce que c'est science et foi? Est-ce que la science se confronte immédiatement à la foi, dont on sait toujours, enfin, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que c'est. Alors, il y a la connaissance en plus, artistique, symbolique, qui est évidemment liée aussi aux médias, qui autrefois était religieuse.
D'accord.
Qui connaît depuis, enfin quand même ça pour le coup depuis le 17e, un développement progressif qui fait que c'est aussi une forme de connaissance. Qui est sur un autre registre que la connaissance scientifique, et j'ai à apprendre à distinguer. Oui, je. Ça n'est pas scientifiquement valide parce que c'est esthétiquement beau. C'est le problème de la loi. De la théorie de l'évolution. Il y a un livre récent qui concluait en disant au fond, la vraie raison de l'efficacité ou de la séduction de la théorie de l'évolution, c'est simplement sa capacité artistique. Scientifiquement, elle ne tient pas debout, au sens strict, hein, tel que Darwin l'a énoncé. Elle ne tient plus debout, mais comme on n'a pas encore conçu de théorie qui soit plus séduisante, si vous voulez, qui convienne plus à la forme de l'intelligence artistique de l'homme, c'est celle-là qu'on garde, parce qu'on n'en a pas d'autre pour la remplacer. C'est vrai, dans beaucoup de cas, la vulgarisation scientifique, elle est entre les deux. Quand vous lisez science et vie, vous n'êtes jamais dans la connaissance scientifique, il faut le savoir. Parce qu'on vous épargne toute la démarche proprement mathématique qui caractérise la démarche scientifique, au point de vue des sciences positives. Donc vous êtes entre la science et l'art. Et puis il y a une autre forme de connaissance qui est aussi aujourd'hui très importante, qui est la connaissance affective. Que la psychologie met beaucoup en valeur. Alors c'est évident, je ne peux pas les séparer ces connaissances, vous voyez, je sais pas, je ne vis pas pendant une partie de ma journée sur la connaissance immédiate, ensuite je regarde la télévision, après ça je fais des mathématiques, ensuite je lis un livre d'histoire, et puis je passe à l'art, vous voyez, c'est une distinction, ce n'est pas une séparation. Et ce qui est très complexe, c'est de savoir, et la foi, vous voyez, dans tout ça, sur quoi elle vient se greffer. Est-ce qu'elle est scientifique, la foi? Est-ce qu'elle peut se servir de la science? Est-ce qu'elle peut se servir des médias? Est-ce que les médias me donnent une nouvelle analogie pour parler de la foi? C'est important parce que c'est un phénomène qui est impressionnant. C'est un phénomène de médiation. Alors la médiation, c'est très important en chrétienté. Donc vous voyez, ça c'est pour poser le problème. C'est pour voir que autrefois, la connaissance, je dirais, elle ne posait pas beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on doit prendre le temps, avant d'entrer dans une initiation à la théologie, de voir de quoi on parle. Donc qu'est-ce qu'on met en jeu de la connaissance que nous avons de nous-mêmes, de l'homme et du réel, pour croire? Qu'est-ce que c'est croire? Vous voyez? Quelle est la part de l'homme qui participe à la foi? Alors ce qui est très simple, nous on va dire, mais c'est très simple, la foi ça relève pas de l'intelligence, ça relève du cœur. Ça solutionne tout. Mais en fait, le cœur, il est inséparable, on va le voir, de l'intelligence. Et puis ça ne relève pas du cœur. Si le Christ dit, en reprenant la parole de l'Ancien Testament, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, c'est bien que l'intelligence est distincte du cœur. Vous voyez, je pensais aussi un autre type de connaissance qui aujourd'hui est très dont on se sert beaucoup, et dont on se sert par exemple pour réfléchir sur ce que c'est que l'Église, c'est les statistiques. Où ça se situe, les statistiques? C'est entre les sciences. Vous voyez, parce que c'est vrai, on se sert des statistiques pour savoir quel est le taux de pratique. Et on essaye de se représenter ce que l'Église en France à partir de la statistique. Quel est le taux d'entrée et de sortie dans une communauté? Quelle est la moyenne d'âge dans un diocèse des curés? Quelle est la moyenne d'âge des religieux? On se sert énormément de la connaissance statistique. Est-ce que ça me donne, vous voyez, quel type de connaissance ça représente, la statistique? C'est très On aime bien les statistiques. Ça nous donne l'impression qu'on domine bien la réalité. Et dans certains cas, d'ailleurs, quand on a à travailler ou à organiser une entreprise, c'est très important d'avoir des statistiques. Est-ce que quand il s'agit de l'Église, est-ce que quand il s'agit de la foi, ça va avoir... Vous voyez, est-ce que je peux m'en servir ? Donc la première question, c'est de se demander... D'abord de s'émerveiller devant tous ces types de connaissances. Vous voyez, ça ne crée pas simplement des complications. C'est une richesse qu'on n'a jamais eue. Et c'est très impressionnant que le même être humain ait toutes ces richesses. Mais ensuite, je dois essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Alors, il y a un moyen simple qui est de dire l'intelligence, c'est ce qui permet tout ça. C'est le fondement. Donc si j'arrive à saisir ce qu'il y a de commun entre tous ces types de connaissances, je serai plus proche de ce que c'est que l'intelligence. Mais ce n'est pas facile, parce que aller saisir ce qu'il y a de commun entre la connaissance mathématique et la connaissance artistique, oui, ce n'est pas simple. Entre Cauchy et puis un mathématicien et Van Gogh, ce n'est pas facile de saisir dans leur type d'intelligence ce qu'il y a de commun. Ou à la limite, avec le mathématicien et l'artiste, ça va mieux. Mais si vous prenez un économiste et un enfant qui a une connaissance symbolique. Vous voyez, c'est d'essayer de saisir quel est le fondement de toutes ces connaissances. Alors, ce que je dois me demander aussi, c'est, dans toutes ces expériences de connaissances, est-ce qu'il y en a qui me révèlent plus ce qu'est l'intelligence ? Autrement dit, est-ce qu'elles sont toutes à égalité ? Vous voyez, est-ce que je suis aussi proche du fondement qu'est l'intelligence dans tous ces degrés de connaissance ? Ou est-ce qu'il y a des formes de connaissances qui me rapprochent de l'intelligence ? Ce qui peut m'aider dans un premier temps, c'est déjà de voir que l'intelligence n'est pas identique à chacune de ces connaissances. Donc l'intelligence, c'est pas les mathématiques. C'est pas simplement l'art, c'est pas simplement l'affectivité. C'est pas simplement la connaissance immédiate, c'est pas simplement les connaissances scientifiques. C'est plus radical. Si je vais plus loin, je vais même voir que dans tous ces types de connaissances, je me sers de l'imagination. De manière plus ou moins forte, mais je me sers toujours de l'imagination. Et je suis capable de voir que l'imagination me donne un certain type de connaissances, mais que plus profondément que l'imagination, ce qui spécifie la connaissance humaine, c'est précisément l'intelligence. Donc l'intelligence, elle est encore plus radicale que l'imagination. L'intelligence est plus radicale que la connaissance sensible. Et en même temps, elle est inséparable de la connaissance sensible. Je n'ai pas de connaissance, aussi mathématique soit-elle, qui ne soit liée à l'imagination et à la sensation. Vous voyez, c'est ça aussi qui est déroutant, c'est que j'ai jamais de connaissance à l'état pur. Vous voyez, c'est la nostalgie de la méditation transcendantale, c'est d'atteindre une intelligence à l'état pur. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie humaine où je suis face à la connaissance à l'état absolument pur ? Vous voyez, où la sensation est complètement dépassée. Ou même la sensation n'est plus présente. Ben manque de chance, il n'y en a pas. C'est ça qui rend les choses pas simples. Mais on verra qu'à la fois, c'est ça ce qu'il y a de très grand dans la personne humaine, c'est que ça serait facile si je pouvais, voyez, séparer complètement l'intelligence de tout le reste. D'abord, parce que je verrais tout de suite ce que c'est. Donc je n'aurais pas besoin de me casser la tête à faire ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, on verra que c'est le propre de l'être humain qui fait qu'il est âme et corps d'une manière parfaitement, enfin, d'une manière une, et que je ne peux pas séparer dans la vie humaine l'âme du corps, qui fait que la connaissance de l'intelligence, elle est distincte de celle de la sensation, mais elle est absolument inséparable. Donc si vous voulez, d'une part, l'intelligence est plus radicale que l'imagination. Alors c'est pas simple ça, parce qu'on va vous dire, mais qu'est-ce qui vous prouve que l'intelligence, c'est pas l'imagination ? C'est vrai. Qu'est-ce qui vous prouve que les mathématiques, la science et tout le reste, c'est pas la même chose que le fonctionnement de l'imagination chez l'animal, mais un petit peu plus évolué? Oui, ah oui, j'ai oublié quelque chose. Quelle est la différence entre l'intelligence et la conscience? C'est pas simple, en gros. Est-ce que la foi, ça se reçoit dans la conscience? Est-ce que j'ai conscience que j'ai la foi? Est-ce que j'ai conscience du mystère en lequel je crois? Très important, parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on soit des êtres conscients, responsables de nous-mêmes et donc conscients. Ça aussi, la conscience, hein, ça n'existe pas. Enfin, le Moyen-Âge ne s'intéressait pas du tout à la conscience. Et aujourd'hui, on est obligé de s'intéresser à la conscience. Se poser la question, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience morale? La conscience psychologique? Est-ce que c'est la même chose? Alors, je dis ça parce que souvent, la conscience, c'est ce qu'on dira. On dira l'homme est différent de l'animal parce qu'il a une conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est de chercher quel est le lieu où je découvre que l'intelligence n'est pas réductible à l'imagination. N'est pas réductible, parce qu'il y a une certaine conscience chez l'animal. Il n'y a pas une conscience réfléchie comme chez l'homme. Oui, mais j'essaie de chercher quelle est l'expérience. Alors, c'est clair qu'il y a deux expériences. Il y a l'amour personnel, l'amour d'amitié. Où je m'aperçois que seul l'homme est capable d'accueillir l'autre comme un autre, précisément. L'animal regarde la réalité qui est face à lui toujours dans le prolongement de lui-même. Ce qu'on fait quand on est fatigué ou quand on est dans un état d'égoïsme replié sur soi. Mais on est capable de découvrir que l'autre est différent de nous-mêmes. Pas simplement qu'il est étranger, ça l'animal sait le faire, qu'il est dangereux, mais qu'il est autre que moi. Et puis il y a une autre expérience qui n'est pas une expérience à proprement parler, mais qui est sous-jacente à toute une expérience, qui est le jugement d'existence, qui est de découvrir que la réalité existe. Enfin, de le découvrir, en fait, je le sais, donc j'ai pas besoin de le découvrir. Mais pour le coup, de prendre conscience que la réalité existe. Mais c'est très ténu. Ça a beau être une expérience qui est sous-jacente à toutes les autres, parce que quand je considère que la réalité n'existe plus, je deviens fou. Donc, tant que je ne suis pas fou, c'est que je considère que la réalité fondamentalement existe. Au moins celle sur laquelle je marche et sur laquelle je m'assieds. Mais c'est très difficile de mettre le doigt sur cet acte de l'intelligence qui différencie fondamentalement. Oui, c'est le lieu propre où je différencie l'intelligence humaine de la connaissance sensible de l'animal. C'est pas facile, hein, parce que c'est trop simple, alors on a du mal à mettre le doigt dessus. De l'autre côté, donc je vous disais, l'intelligence est plus radicale que l'imagination et que la sensation. Elle est plus radicale, hein. C'est pas simplement une imagination élaborée. Elle est plus fondamentale dans l'homme. L'homme est plus fondamentalement homme par l'intelligence que par la sensation. Parce que pour nous, l'intelligence, on imaginerait, vous voyez, que c'est le dernier étage de la fusée, donc c'est quelque chose d'un peu abstrait, d'un peu flou, quoi, qui est assez nettement moins réel que la sensation, l'imagination, et en tout cas sûrement moins réel que le corps. La première approche qu'on a de l'esprit, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'on va voir que c'est important de découvrir que l'esprit, c'est juste l'inverse. L'intelligence est plus réelle que la sensation. Ça ne veut pas dire que la sensation n'est pas réelle, hein. C'est pas parce que c'est pas visible que c'est moins réel. L'intelligence est aussi plus radicale que la raison. Précisément, la raison, c'est l'alliance entre l'intelligence, qui est très présente, hein, dans toutes ces connaissances. L'alliance entre l'intelligence et l'imagination, c'est ça la raison. La raison, c'est l'intelligence qui marche. C'est le raisonnement. Il faut que la raison, c'est pratique, c'est efficace, mais comme tel, c'est ennuyeux. Pourquoi? Parce que ça, la raison, elle est finalisée par son efficacité. Si vous raisonnez, c'est pour faire... Bon, sauf si vous êtes malade, mais normalement, si vous raisonnez, quand on est sain d'esprit, on raisonne pour faire quelque chose. On raisonne pour mettre en place un organigramme. On raisonne pour résoudre un problème de mathématiques. On raisonne pour faire un devoir. On raisonne pour réparer sa voiture. Ou pour organiser son week-end. Vous voyez, le raisonnement est finalisé par une œuvre. Ou au moins, le raisonnement doit aboutir à une conclusion. Quelque chose, une conclusion, c'est un peu comme une œuvre. La raison n'admire pas. On va voir que le propre de l'intelligence, c'est d'admirer, de s'étonner. Il ne faut pas que la raison s'étonne et qu'elle admire. Elle a autre chose à faire. Quand on vous demande de travailler, on ne vous demande pas d'admirer les fleurs par la fenêtre. C'est possible que ça soit plus humain, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Vous n'êtes pas payé pour ça. L'intelligence est plus radicale que la pensée. Pourquoi ? Parce que la pensée, c'est l'intelligence regardée à l'intérieur de moi-même. La pensée, elle implique déjà un regard sur soi. La pensée ne me sort pas de moi-même. Si vous voulez, on va voir que la pensée, c'est le recueillement de l'intelligence, si vous voulez. C'est le recueillement de l'intelligence en elle-même. Mais le tout, c'est de savoir que je ne me recueille que parce que je suis sorti de moi-même. Que parce que j'ai recueilli quelque chose à l'extérieur de moi-même. L'intelligence est aussi ce qui permet l'inspiration et l'intuition. Donc elle est encore plus fondamentale que l'inspiration et l'intuition. Vous voyez, je prends une voie négative hein, pour voir à quelle profondeur elle est. Que ce soit l'intuition artistique ou l'intuition affective. Par contre, ce qui est difficile, c'est de saisir quel est le lien entre ce qu'on appelle symboliquement le cœur, hein, la capacité d'aimer. Quel est le lien entre la capacité d'aimer et l'intelligence? Est-ce qu'il y en a une qui est plus profonde que l'autre? C'est pas simple, ça. D'abord, est-ce que c'est deux choses différentes? C'est important parce que comme on essaye d'aimer intelligemment et de comprendre mieux ce qu'on aime, c'est important de voir comment ça marche. Et de découvrir ce que c'est. Et donc si je descends précisément à ce qui est le fondement de tous ces types de connaissances, et que j'essaye de voir que dans l'expérience de l'amour d'amitié, la manière dont je découvre l'autre, et puis le jugement d'existence qui est présent dans l'amour d'amitié, parce que précisément pour découvrir que l'autre est autre que moi, il faut que je vois qu'il est là. Des fois, ça prend du temps. S'apercevoir que l'autre n'est pas la compensation de ce dont j'ai besoin. Il est autre que moi. Et donc, il m'oblige à sortir de moi-même. C'est pour ça que l'intelligence, je la découvre comme une source. Vous voyez, l'intelligence, c'est pas une... Père Philippe prend souvent cette image-là. La raison, c'est les canalisations. L'intelligence, c'est la source. C'est une capacité de communier au réel, de découvrir le réel de l'intérieur. Et en même temps, de le reconnaître, de reconnaître que le réel me dépasse. C'est ça qui est très étonnant, si vous voulez, dans l'intelligence. En même temps, l'intelligence accueille la réalité et la découvre, la dévoile. Et en même temps, je reconnais que je suis dépassé par la réalité. En philosophie, on appelle l'appréhension et le jugement. L'appréhension, c'est le fait que je reçois la réalité. Je communique, une communion, l'appréhension. Mais en même temps, la réalité me dépasse, c'est le jugement. Je touche la réalité, mais je ne la réduis pas à moi-même. Vous voyez, le risque de la pensée, c'est que dans la pensée, je ne vois plus que la réalité me dépasse. Je la réduis complètement à moi-même. Alors, si j'essaie de réfléchir dessus, c'est pas simple, mais la question n'est pas de savoir si c'est simple, mais c'est comme ça. Je peux pas, vous voyez, parce qu'il y aura deux positions, l'une de dire, mais oui, la réalité, on arrive à la comprendre, c'est-à-dire qu'on en fait vraiment le tour, on épuise par notre connaissance la réalité. Une fois qu'on a réglé cette question, c'est réglé. Une fois que j'ai compris quelqu'un, c'est fini, je passe au suivant. Ce qui n'est pas juste, précisément, à cause de cette irréductibilité de la réalité à mon intelligence. Vous pouvez recommencer, vous verrez que vous n'avez pas tout à fait compris. Même des fois, vous n'avez pas du tout compris. Mais inversement, et ça sera la position de Kant, ça sera de dire, mais de toute façon, on ne peut rien connaître. C'est pas vrai qu'on connaît. En fait, fondamentalement, on ne connaît rien du tout. Et l'autre, c'est le mystère absolu. Ce qui n'est pas vrai non plus. Vous voyez, c'est ça. Et j'ai pas le droit de choisir parce que, de facto, mon intelligence n'est pas ça. En même temps, elle me permet de découvrir de l'intérieur la réalité comme elle est. Et en même temps, elle ne l'épuise pas. Alors c'est gênant pour celui qui désire être propriétaire, ça l'est pas pour celui qui cherche à admirer et à contempler. Si je cherche à contempler, ça me gêne pas, qu'en même temps je découvre vraiment la réalité comme elle est et qu'en même temps je ne l'épuise pas. C'est très important parce que selon le regard que j'aurai sur mon intelligence au niveau humain, mon regard sur la foi va changer. Vous avez des gens qui vont vous dire, mais de toute façon le mystère de Dieu, on n'y comprend rien du tout, donc ça sert à rien du tout de vous casser la tête, ni à lire des livres de théologie, ni quoi que ce soit. Ça ne relève rien, absolument pas de l'intelligence. Donc, ça ne sert même à rien d'en parler, parce que tout ce que vous dites est faux. Donc, vivez-en dans le silence, puis c'est tout. Et vous en avez d'autres qui vous diront, mais pas du tout. Une fois qu'on a fait la théologie, on commence vraiment à comprendre le mystère de la Trinité. Vous voyez ? C'est, selon la compréhension, l'intelligence que j'ai de ce que c'est que mon intelligence humaine, mon regard sur la foi et donc sur mon lien avec le Christ va être modifié. D'abord sur mon lien avec les autres, parce que je ne vais pas regarder de la même manière l'autre. S'il est un mystère absolument inconnaissable, qui est un étranger parfait pour moi, si c'est une réalité dont je vais épuiser la compréhension, ou s'il est à la fois quelqu'un que je connais et qui me dépasse. Et si j'essaye de différencier, et ça c'est important, même toujours par rapport à la foi, la capacité d'aimer de l'intelligence, je vois que l'intelligence, elle me fait recevoir la réalité telle qu'elle est. Alors que la capacité d'aimer me fait tendre vers la réalité, me fait tendre vers l'autre. C'est une inclination, la capacité d'aimer, pas l'intelligence. C'est pour ça que l'intelligence me rend autonome. L'amour me rend dépendant. Et on va voir que c'est pour ça que c'est rude dans la foi. Parce que dans la foi, mon intelligence doit accepter d'être complètement dépendante, ce qui n'est pas du tout son mode naturel de fonctionnement. Et puis ce qui est absolument capital, c'est de découvrir cette intelligence comme ce qu'il y a de plus vital en moi. C'est bien plus vital l'intelligence que la faim. C'est bien plus vital que la soif. C'est bien plus vital que les forces humaines physiques. Vous voyez, le grand risque, c'est de confondre l'abstraction, qui est un fruit de l'intelligence, avec sa source. Et donc de considérer que tout ce qui, enfin consciemment ou inconsciemment, que tout ce qui est du domaine du spirituel, c'est pour le dimanche entre 11h et midi, si vous laissez, c'est du domaine de l'abstraction. Mais quand on retourne à la vie concrète, on n'est plus du côté de l'intelligence, on est du côté du concret. Est-ce que c'est concret l'intelligence? poser la question. C'est important parce que si c'est ça qui différencie l'homme des animaux, c'est important de mettre le doigt dessus. Vous voyez, je pense quand un enfant, un petit enfant, c'est important de savoir si sa vie spirituelle, donc le développement de son intelligence, de son cœur, on est tous d'accord pour dire que c'est important le cœur. Mais ce qu'il y a de spirituel dans son cœur, donc ce qui est lié à l'intelligence dans son cœur, est-ce que c'est accidentel ou est-ce que c'est primordial dans son éducation? J'éduquerai pas de la même manière un enfant si ce qu'il faut d'abord c'est qu'il mange bien, qu'il se porte bien, qu'il ait la santé, et puis quand il aura 25 ans, on commencera à réfléchir à développer son intelligence. Ce sera trop tard d'ailleurs. Ou bien est-ce que l'éveil de l'intelligence est aussi important que la santé? Même plus peut-être. Parce que peut-être qu'on va mieux quand l'intelligence est développée. Qu'on est facilement malade quand elle ne l'est pas. C'est vrai, si c'est ce qu'il y a de plus vital, si on vous coupe les vivres du côté de l'intelligence, c'est l'atrophie la plus grave. Donc ça vous rend malade physiquement. Vous voyez, on sent, je dirais, quand je commence à découvrir ce que c'est que l'intelligence, c'est, je dirais d'une certaine manière, c'est d'une logique implacable. Si vraiment c'est ce qu'il y a de plus vital en moi, ne pas nourrir mon intelligence et ne pas la faire grandir, c'est m'atrophier complètement. Donc il ne faut pas s'étonner si je suis malade physiquement. Si c'est ce qu'il y a de plus vital, c'est comme si vous coupiez l'oxygène à un grand malade. Vous verrez le résultat. Vous voyez, et c'est pour ça que ça devient... Enfin, en plus, c'est d'autant plus important que l'intelligence dans tout ça, elle a du mal à se frayer un chemin, on va le voir, qu'il soit vraiment humain. Parce que ce qu'il va falloir qu'on se demande maintenant, c'est quel est l'exercice le plus humain de l'intelligence? Pourquoi? Parce que Dieu ne s'adresse pas aux scientifiques, il s'adresse à l'homme. Et s'il s'adresse à l'intelligence humaine, j'ai essayé de comprendre quel est l'exercice le plus humain de l'intelligence. Le plus personnel de l'intelligence. C'est ça la recherche de la sagesse, hein? L'amour de la sagesse. La philosophie, c'est la recherche d'un exercice de l'intelligence qui soit humain. C'est pas un exercice de style. C'est de comprendre que si l'intelligence... C'est ça la découverte des Grecs, hein? C'est de s'apercevoir tout d'un coup que l'intelligence, elle n'est pas faite pour vivre dans les mythes. Ça, c'est bon pour les enfants et pour les poètes. Mais que la vie humaine, elle n'est pas déterminée par l'environnement mythique, mythologique et imaginatif dans lequel je vis. Et donc nous, on a des mythologies modernes. Les médias vous donnent... C'est une nouvelle mythologie, mais elle est moins intelligente que les Grecs. Elle est aussi effrayante, mais c'est la même chose. Et c'est précisément le réveil des Grecs et l'apparition de non seulement de la philosophie, mais ce qui après ça a permis toute la théologie chrétienne. Comme d'ailleurs le réveil du peuple d'Israël face aux idoles. C'est de s'apercevoir que l'intelligence, elle est faite pour la réalité comme elle est. Oui, elle est faite pour obéir au réel, l'intelligence. Et que c'est le développement personnel de l'intelligence qui permet à l'homme de se guider lui-même. C'est ça la sagesse. C'est pour ça que je vais chercher quel est l'exercice le plus humain. Je ne vais pas chercher quel est l'exercice le plus parfait. Vous voyez, je vais pas réfléchir. Il y a une science qui s'appelle l'épistémologie, qui va consister à mettre tous les types de connaissances les uns à côté des autres et à les comparer. En tant que croyant, et je dirais simplement en tant que personne humaine, j'ai un a priori, qui est de vouloir chercher l'exercice le plus humain de l'intelligence. Pas le plus parfait en soi. Je ne cherche pas l'exercice le plus pur de l'intelligence. Je cherche l'exercice le plus humain. Parce que c'est cette intelligence-là qui va être mise au service de la foi. Encore une fois, Dieu ne s'adresse pas à la pureté de mon intelligence. Il ne s'adresse pas aux scientifiques, il ne s'adresse pas à l'artiste, il ne s'adresse pas au poète, il s'adresse à l'homme. Il ne s'adresse même pas à l'enfant. Enfin, il ne s'adresse pas qu'à l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs que si j'ai qu'une intelligence d'enfant, il y a plein de choses que je ne comprendrai pas. L'évangile de Saint Jean, il y a des endroits où je calerai complètement, parce que, ou l'Apocalypse, ça me fera peur. Lisez l'Apocalypse à un enfant, le soir, vous verrez. En y mettant la voix. Et... Non, mais c'est important parce que nous, on va dire, il faut lire l'écriture comme des enfants. Comme des enfants de Dieu, oui. Mais les enfants de Dieu, c'est pas, vous voyez, c'est pas le berceau. Et c'est pour ça que je cherche quelle est. Alors, c'est vrai que là encore, le lieu, si vous voulez, la demeure de l'intelligence la plus humaine, c'est l'amour d'amitié. C'est clair que c'est ça l'expérience qui m'oblige à être intelligent, dans, vous voyez, à être humain dans mon intelligence. Parce que je vois bien dans l'amour d'amitié que je ne peux pas ni vivre dans l'abstraction, ni dire qu'il n'y a que le cœur qui compte. C'est pas vrai, parce que je verrais que dès qu'il y a un conflit, il y a pas les trois quarts du temps, mais très souvent, c'est un manque d'intelligence. Pas d'intelligence abstraite, mais d'intelligence concrète. On voit bien dans les familles. Il y a l'intelligence affective de l'épouse, il y a l'intelligence, pas mathématique, mais professionnelle du père. Et le conflit, il est là, c'est un manque d'intelligence d'une part et d'autre. Enfin, avec souvent, quand même, un manque d'intelligence concrète qui est plus souligné du côté du père que de l'époux que de l'épouse. Mais à chaque fois, vous voyez, c'est précisément, on reste ou dans la connaissance affective, ou dans la connaissance scientifique, ou dans la connaissance artistique, puisque d'être chef d'entreprise, ça relève de la connaissance artistique. Politique, si vous voulez. Et le conflit, c'est un manque d'intelligence. L'amour, tout le monde est d'accord pour s'aimer. Ça ne suffit pas. Et donc, cet exercice le plus humain de l'intelligence, qui est à l'intérieur de l'amour personnel, il est celui qui cherche à découvrir la réalité comme elle est. Donc, au-delà de tous les instruments dont je peux me servir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas la science. La science n'est pas le lieu le plus humain d'intelligence. C'est sans doute le lieu le plus certain. Parce que j'ai une certitude mathématique en science. Enfin, pas dans les sciences humaines. Mais j'ai une certitude méthodologique qui est absolue. Mais le lieu du contact avec la réalité telle qu'elle est, c'est mon expérience immédiate. Et tout le travail de la philosophie, c'est enfin, un vrai travail, il ne faut même pas appeler ça la philosophie, le mûrissement de l'intelligence humaine, il a lieu là. Et je peux être très développé artistiquement, scientifiquement, dans les sciences positives et humaines, et même dans mon intuition affective, et être complètement à l'état d'infantilisme du côté de ma connaissance immédiate. Pas tout à fait, hein, parce qu'il y a quand même des interférences. Mais je peux être très fin psychologiquement et être devenu complètement incapable de recevoir les réalités comme elles sont. Parce que je les interprète tout de suite. Vous voyez ? L'intuition affective, elle interprète en fonction de moi. La science, elle interprète aussi. L'art, il interprète aussi. Cette connaissance-là, elle essaye de ne pas être interprétative. Elle essaye. Donc c'est important, si vous voulez, de voir que le lieu d'éclosion et de développement d'intelligence, c'est là. Vous allez me dire, c'est pas brillant parce que la vie quotidienne, la connaissance immédiate, elle n'est pas très exaltante. Mais précisément, le travail de la philosophie, c'est de découvrir qu'elle est exaltante. Pourquoi ? Parce que c'est là que je suis en face de l'homme, tout court. Alors, ça déteint sur tout le reste. C'est évident que ce n'est pas rival des autres types de connaissances. Mais ça me permet de les mettre à leur place. De les situer par rapport à la connaissance proprement humaine. Et donc la connaissance la plus humaine, c'est celle qui me donne le sens de la personne. Et la foi, on va le voir, la parole de Dieu, le don de Dieu, la révélation s'adresse à l'intelligence humaine qui a le sens de la personne humaine. Parce que je n'ai pas le sens de Dieu, vous voyez, mon intelligence n'est pas orientée vers Dieu en dehors de son orientation vers la personne humaine. Je ne passe pas de la science à Dieu, ça c'est pas vrai. Du côté du désir, c'est très vrai. Que les grands scientifiques, parce que ce sont des hommes, au terme de leur science, se posent la question de Dieu, c'est tout à fait normal. Mais leur science ne les fera jamais déboucher sur le problème de Dieu. Comme science. Vous voyez, comme science. Une théorie scientifique n'a pas à se poser la question de Dieu, ça n'a rien à voir. Au bout d'une équation mathématique, vous ne vous posez pas la question d'une personne. Au bout d'une théorie physique, vous ne vous posez pas la question d'une personne. Même au bout d'une reconstitution historique ou d'une compréhension économique du monde, vous ne vous posez pas la question d'une personne. C'est humainement que vous vous posez la question. Parce que votre recherche scientifique pose des problèmes que vous n'arrivez plus à solutionner. Qu'effectivement, comme quand l'homme est perdu, il se pose spontanément la question de quelqu'un d'autre. C'est souvent ça, vous voyez, c'est l'échec de la... Enfin, l'échec. C'est les limites de la démarche scientifique qui révèlent à l'homme qu'il est limité tout court. Et c'est clair que face à ces limites, l'homme s'aperçoit qu'il a besoin de quelqu'un d'autre. Ou d'humain, ou de plus qu'humain. Alors la dernière chose, c'est que quand j'essaye de voir cette connaissance immédiate, elle a deux versants. D'accueillir la vérité, la réalité comme elle est. Et d'apprendre à perdre tous mes a priori. Donc à la voir de moins en moins telle que je la pensais, de plus en plus comme elle est. Ce qu'on appelle la connaissance objective. Qui a une rigueur qui n'est pas une rigueur de type des sciences humaines, mais qui a une rigueur plénière. C'est parfaitement nécessaire que ça, ça soit une table. J'ai pas le choix. Je peux pas vous le prouver. Précisément parce que c'est plus qu'une preuve. Mais c'est le problème de la connaissance immédiate, c'est que ça ne fonctionne pas. Nous, parce qu'on a une connaissance scientifique, on verra du côté de la foi, on va chercher à prouver. On ne prouve pas du côté... Vous prouvez pas que votre frigidaire, c'est un frigidaire. Le matin, quand vous vous levez, vous n'avez pas besoin de vous prouver à vous-même que vous êtes vous-même. Sinon, c'est que ça ne va pas bien. Mais c'est pas simple, vous voyez, d'accepter que c'est l'existence de la réalité qui est à elle-même sa propre preuve. Parce que j'ai plus de sécurité, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai plus de critères subjectifs. Je suis obligé de sortir de moi-même. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. On a besoin de preuves parce que ça nous oblige pas, vous voyez. On a la réalité par procuration quand on a les preuves. On nous a prouvé scientifiquement que, je sais pas trop quoi, la Terre tournait autour du soleil. Du coup, j'ai pas besoin d'aller voir. Je le sais. On me l'a prouvé. Vous n'avez aucune expérience que la Terre tourne autour du soleil. Je suis tout à fait désolé. Vous n'avez aucune expérience. Pour ça, faudrait que vous soyez en dehors du système solaire. Vous n'avez pas l'expérience. Mais on vous l'a prouvé. Donc vous vous contentez de la preuve et vous n'avez plus besoin de l'expérience. Mais l'expérience, vous voyez, elle me prouve. Elle cherche pas à me prouver l'expérience. Elle me donne la réalité. Et c'est pas simple d'apprendre à voir que la réalité est quelque chose de plus fort que la preuve. On va voir, parce que dans la foi, on va rien prouver du tout. Rien du tout. Vous n'avez jamais prouvé le mystère de la Trinité, ça sûrement pas. Donc si vous cherchez à prouver le mystère de la Trinité ou le mystère de l'incarnation, vous êtes perdu d'avance. Et donc cette connaissance objective, elle ne relève pas de la preuve. Vous voyez, elle a quelque chose entre guillemets de scientifique, parce qu'elle a quelque chose de parfaitement rigoureux, mais qui n'est pas du type des sciences humaines. Mais en même temps, et ça c'est très important, elle implique aussi la présence d'une connaissance symbolique. Pourquoi ? Parce que mon âme, mon intelligence, est unie par mon âme à mon corps. Et donc je ne suis jamais dans une connaissance à l'état pur, chimiquement pur. Il y a toujours une présence symbolique. Quand vous êtes en face d'un chat, c'est un chat. Mais les chats, ils vous inspirent de la crainte ou de l'attraction ou de la tendresse ou de la haine. Ça dépend de beaucoup de choses. Des premières expériences que vous avez eues du chat, de l'inconscient dans votre famille qu'il y a par rapport au chat. Si vous êtes égyptien, il y a un arrière-fond religieux qui est lié au chat qu'il n'y a pas chez les autres. Mais vous riez, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais c'est par le corps, ça. Il y a une mémoire du corps qui n'est pas simplement individuelle, qui est collective. Et donc, on va voir que c'est très important qu'il y a cette connaissance symbolique. Et donc, vous voyez, la connaissance objective est à la connaissance symbolique ce que l'intelligence est au corps. Donc je ne peux pas, je les distingue, mais je ne peux pas les séparer. Parce que la tentation, c'est de dire, voilà, on a trouvé la connaissance parfaite. Donc le symbole ne nous gêne plus, on est face à la réalité, à l'état pur. C'est pas vrai. Et on verra que la parole de Dieu se sert des deux. Parce que la parole de Dieu, elle est objective et symbolique. Sinon, Dieu ne se serait pas fatigué. Il nous aurait donné un traité de théologie scientifique en 10 volumes. Et il ne nous aurait pas raconté des histoires avec des chiens, avec des gens qui se tapent dessus. Oui, il ne nous aurait pas raconté des histoires. C'est vrai, il y a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament. C'est pas simplement pour les enfants, c'est à cause de la connaissance symbolique. C'est ce qu'on va voir. Vous n'hésiterez pas à poser des questions entre les deux cours, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de cours sur les questions-réponses. Donc, vous n'hésitez pas. On me dit, vous avez parlé pendant une heure de la connaissance. Vous nous avez dit comment elle se manifeste, mais vous n'avez pas défini ce qu'est la connaissance. Donc, qu'est-ce que la connaissance? Ça ne se définit pas, l'intelligence. Donc, je ne vais pas vous le définir, ce n'est pas possible. La réalité se définit jamais. La définition, c'est de l'ordre logique, les définitions. Les définitions, ça sert à situer du côté des concepts. Ça sert à situer les concepts les uns par rapport aux autres. Mais c'est absolument impossible de définir une réalité. Je peux la situer. Vous voyez, la définition sert à situer. Alors, si vous voulez dire que la connaissance, c'est l'opération spirituelle. C'est l'opération d'assimilation propre à l'être spirituel. Vous pouvez dire ça. Mais comme il faut définir ce que c'est que spirituel, vous pouvez continuer longtemps. Définir ce que c'est que l'être, définir ce que c'est que spirituel, il faut définir ce que c'est que l'assimilation, ce que c'est que l'opération, etc. Donc, pour l'intelligence, il vaut mieux saisir ce qu'elle est, et à ce moment-là, le reste vous apparaîtra évident. Mais ceci dit, je comprends, c'est vrai qu'il faut la situer, notamment la connaissance, c'est l'opération de l'intelligence. Oui, la connaissance, c'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qu'en grec on appellera la dunamis, la puissance. C'est la capacité. Et la connaissance, c'est l'opération. Quand vous dormez, l'intelligence n'est pas supprimée, mais la connaissance n'est pas en acte. Quand vous vous réveillez, normalement, vous actuez l'intelligence par la connaissance. Il y a une question qui n'est pas simple, c'est est-ce qu'on a une, comment dire, est-ce que notre volonté a une emprise sur l'intelligence? Est-ce que je peux décider d'arrêter mon intelligence? Est-ce que je peux vivre uniquement au niveau sensitif, par exemple? Je décide qu'à partir de maintenant, pendant 10 minutes, je ne vis qu'au niveau sensible. Bah, essayer, c'est impossible. Je peux supprimer le raisonnement, ça oui, même ça fait du bien, ça repose. Donc le raisonnement, je peux l'arrêter. Mais l'intelligence, Aristote dira, elle est acte, l'intelligence. Je n'ai pas de maîtrise sur la source. Ça ne se canalise pas, je ne peux pas arrêter l'intelligence. Je peux diriger son exercice, oui. Je peux tourner mon intelligence vers telle ou telle chose. Et je peux coopérer à cette intelligence. Mais si vous voulez, l'intelligence est du domaine de l'être, et donc elle devance ma liberté. Je suis intelligent avant d'être libre, de la même manière que j'ai une capacité d'aimer avant d'aimer. Donc je ne peux pas décider d'avoir une intelligence ou de ne pas en avoir. Je peux la développer ou ne pas la développer. C'est pour ça que je vous disais, c'est important que si l'intelligence existe et si elle est ce qu'elle est, du coup j'ai un devoir, enfin vous voyez, un devoir de la développer. Alors elle se développe selon toutes les modalités de la connaissance qu'on a vues, mais elle se développe de manière proprement humaine par la connaissance de la personne, par la connaissance de l'être humain. Elle s'enrichit de toutes les autres formes de connaissance, de la connaissance scientifique, de la connaissance des sciences humaines, de la connaissance artistique, de la connaissance affective. Mais tout ça, c'est pour enrichir ma connaissance propre, ma connaissance immédiate de la personne. Alors, je vais finir en vous disant que cette connaissance... Enfin, vous voyez, quand je dis connaissance immédiate, ça ne veut pas dire que mon intelligence, qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais dans cette connaissance, quand je dis immédiate, c'est par rapport aux autres connaissances qui se servent de modèle. La connaissance scientifique se sert de modèle. La connaissance affective se sert aussi de modèle. La connaissance psychologique se sert de modèle. Il y a toujours une théorie. Même la connaissance artistique se sert d'un modèle, celui qu'on a dans l'esprit. Alors que la connaissance, que j'ai appelée immédiate, appelez-la autrement, c'est pas grave. La connaissance propre à l'intelligence, elle est faite pour dépasser le modèle. Précisément, par rapport à cette connaissance immédiate, à cette recherche de la réalité telle qu'elle est, le modèle est considéré comme un a priori. C'est pas gênant. Il faut en avoir des a priori. Le tout, c'est d'être capable de les laisser tomber quand il faut. Vous voyez, donc, dans cette connaissance-là, je vais vers ce que je ne connais pas. Donc, ça consiste à désapprendre ce que je sais. Ça consiste à laisser la réalité m'enseigner telle qu'elle est. Et non pas à arriver vers la réalité avec ce que je sais déjà, parce que sinon, j'apprends rien. C'est important pour la foi. J'arrive pas vers Dieu avec ma théologie sous le bras. Puisque la raison propre, on va le voir, de ma théologie, c'est Dieu. Alors je vous disais, elle est à la fois objective, ça veut dire que l'intelligence atteint la réalité telle qu'elle est, et en même temps, elle implique un mode symbolique. Et donc dans ma connaissance quotidienne, il y a toujours une référence affective. Ça me plaît ou ça me plaît. Il fait beau. Déjà, le fait de dire qu'il fait beau, il peut pleuvoir et vous pouvez trouver que c'est beau. Ou il pleut, la pluie, c'est objectif. Que ça vous émeuve positivement ou négativement, ça c'est la dimension symbolique de la pluie. Mais pas symbolique au sens de ce que ça représente dans les traditions ou dans l'art, mais symbolique au sens où ça, il y a aussi une connaissance affective de la pluie. Il y a des gens auxquels la pluie donne du courage et d'autres, ça leur donne le cafard. Ils n'en peuvent rien, ça fait partie de cette connaissance. Et ça peut la modifier. Parce que je peux ne pas avoir du tout envie d'étudier, de réfléchir sur ce que c'est que la pluie, qui est un phénomène très intéressant, parce que ça me donne le cafard. C'est Aristote qui dit qu'on a des a priori pour étudier les insectes, parce qu'on trouve que c'est pas beau. Mais il dit, si on perd les a priori sur la laideur des insectes, on découvre qu'ils sont des merveilles de créatures. C'est pour ça qu'il étudie les scarabées, tout plein de choses comme ça, qui n'intéressent pas nécessairement tout le monde. Parce que, a priori, affectivement, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Et Dieu va tenir compte de ça quand il s'adresse à nous. dans les sacrements et dans la parole de Dieu. Vous voyez ? Il va nous prendre dans le bon sens de notre affectivité. Et des fois dans l'autre sens aussi. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais regarder maintenant quels sont les deux extrêmes de cette connaissance immédiate. Cette connaissance immédiate, dans ce qu'elle a de plus élevé, c'est la contemplation de Dieu. Alors, je ne vais pas le développer ici, parce que ce n'est pas l'objet. La contemplation de l'être premier. Parce que toute la recherche de sagesse, la recherche de philosophie, au sens strict, elle est dans le prolongement de cette connaissance. Et si l'homme est capable de découvrir quelque chose de Dieu, ça n'a de sens que si c'est dans le prolongement de cette connaissance immédiate. Comprenez bien que ça n'a aucun intérêt de découvrir Dieu scientifiquement. Puisqu'il ne s'agit pas d'une théorie, ça n'a aucun intérêt. Puisqu'il ne s'agit pas de la résolution d'un problème, Dieu n'est pas la solution d'un problème. Si Dieu est Dieu, il est quelqu'un. Et donc c'est dans la ligne de ma connaissance de la personne que je découvre Dieu. Alors, avec la rigueur de la philosophie, qui est tout aussi rigoureuse que la science. Mais le problème de Dieu ne se pose pas dans la ligne de la science. Il se pose dans la ligne de l'homme. La science ne se pose jamais la question de Dieu. L'homme se pose la question de Dieu. Et donc au terme, et ça c'est... Bon, l'Église nous enseigne que l'intelligence est capable par elle-même, non pas de comprendre Dieu, non pas d'avoir l'expérience de Dieu, mais de découvrir avec certitude, avec évidence, qu'il existe, ce qui n'est pas du tout la même chose. Elle ne dit pas non plus que tout le monde y arrive. Elle dit que l'homme en est capable, par ce qu'il est, à cause de ce que c'est que l'intelligence. Et donc c'est important de savoir qu'au terme, si vous voulez, cette connaissance, qui est la connaissance la plus élevée de l'intelligence, qui est la connaissance aussi la plus simple, c'est ce qu'il y a de plus simple, la contemplation de Dieu. Puisque Dieu est absolument simple dans son être, c'est beaucoup plus simple, même si c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est beaucoup plus simple de contempler, pas directement, hein, mais de contempler indirectement, comme dira saint Paul, à travers ses effets, cette cause première, cet être premier qui est Dieu, que de regarder la personne humaine. Et il n'y a que là que l'intelligence se repose au sens strict, parce qu'elle est faite pour ça. Étant donné que l'intelligence, elle est spirituelle comme telle, elle est faite pour se reposer dans une personne qui est spirituelle dans toute sa personne. Vous voyez ? Le premier repos de l'intelligence, c'est la contemplation de la personne humaine. Il y a une certaine contemplation de la personne. Mais ce n'est pas un repos définitif parce que la personne, elle est complexe. Et il y a quelque chose de simple dans l'intelligence. Donc l'intelligence ne se repose que quand elle contemple une personne absolument simple. Et parfaitement esprit. Quand elle contemple un être qui est contemplation dans son être. Donc ça, c'est l'exercice le plus fort. Ensuite, si je regarde l'exercice le plus faible, c'est ce qu'on appelle la croyance. Qui est la connaissance, si vous voulez, la plus faible. La croyance, qu'est-ce que c'est ? C'est précisément une connaissance qui n'est pas immédiate, mais dans laquelle je suis lucide sur le fait qu'elle n'est pas immédiate. Dans la croyance, je m'appuie sur un autre. Donc il y a un médiateur dans la croyance. J'adhère à quelque chose qu'on me dit dans la croyance. Alors, nous, on fonctionne toute la journée à ce niveau-là. Chaque fois que vous regardez la télévision, vous croyez. Parce que vous n'avez, pour le coup, aucune preuve, ni aucune expérience de ce dont on vous parle. On vous dit que un Airbus nouveau vient d'apparaître. Vous le croyez. Toutes les informations, vous y croyez. Sauf celles qui sont un tout petit domaine sur lequel vous avez une expérience immédiate. D'accord ? Et on ne vous donne pas de preuves scientifiques, en plus. On ne vous démontre pas mathématiquement que la chose qu'on vous montre, c'est réellement passé. D'accord ? Chaque fois que vous regardez, ce que vous voyez une voiture, vous croyez que c'est une voiture. Mais vous n'avez pas l'expérience que c'est une voiture, surtout que ce n'est pas une voiture, en plus c'est un canon à électrons avec des petits points dessus. Vous n'êtes jamais en présence du réel quand vous êtes face à la télévision. d'accord, ou face aux informations. Et donc vous croyez tout le temps. C'est impressionnant de voir que le fonction de la croyance s'est déplacée du domaine religieux ailleurs, mais elle est beaucoup plus développée aujourd'hui qu'avant. Parce qu'à la limite, je crois des choses que j'aurais même pas besoin de croire. Ou bien parce qu'elles n'ont aucun intérêt, donc ça sert à rien de... Ou bien parce qu'elles seraient l'objet d'une vérification par moi-même. Au niveau scientifique, il y a quantité de choses que vous croyez, mais dont vous n'avez pas l'expérience. Quand on vous explique que vous êtes composé de molécules, vous n'avez aucune expérience du fait que vous êtes composé de molécules. Au sens quotidien, vous y croyez. Sauf si vous avez la connaissance scientifique suffisante pour l'avoir expérimenté de manière immédiate. Alors ce qui est intéressant, c'est d'étudier ce phénomène de la croyance. Parce que la croyance, c'est la débilité de l'intelligence, si vous voulez. C'est une connaissance en attente d'expérience. C'est ça qui est grave, c'est quand un enfant n'a plus besoin, vous voyez, n'éprouve plus le besoin de passer de la croyance à l'expérience. Quand je sais tout sans rien connaître, c'est grave. Je sais tout parce que j'ai tout vu à la télévision. Mais j'ai rien expérimenté. Je sais tout scientifiquement, mais rien réellement. Alors normalement, ce phénomène de la croyance, pourquoi est-ce que j'y crois ? C'est important de se poser la question. J'y crois à cause de la crédibilité du médiateur, c'est quelqu'un de sérieux. Et la crédibilité du message, du contenu. Ce qu'on me dit est cohérent. Je savais qu'on était en train de faire des expériences, enfin on m'avait dit qu'on était en train de faire des expériences pour aller sur la Lune, on me dit maintenant qu'on y est arrivé, j'y crois. C'est cohérent. Par contre, si on vient de commencer le tunnel sous la Manche et qu'on me dit le lendemain qu'il est déjà fini d'être creusé, c'est pas crédible. Vous n'avez aucune expérience du tunnel sous la Manche. Rien du tout, vous ne savez pas ce que c'est. On vous a dit et vous y croyez. Même si vous avez des actions. Mais c'est impressionnant. Vous payez quelque chose pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et on n'est pas fait pour ça. Par contre, on ne croit pas en Dieu. On ne croit même pas en Dieu, même pas au niveau de la foi, au niveau de la croyance. Alors que c'est plus important. Donc, si vous voulez, ça porte sur le médiateur ou sur le contenu. Et le contenu, il y a deux choses. Il y a divers critères de crédibilité. Il y a des critères objectifs de crédibilité. Ce qu'on me dit est rationnel. Vous voyez, c'est je vérifie par la logique, par la cohérence de ce qu'on me dit par rapport à mon expérience. Vous voyez, en fonction de mon expérience, je crois plus ou moins à ce qu'on me dit. Et puis, il y a une cohérence symbolique. Et si vous regardez bien, les médias ne travaillent jamais sur la connaissance, sur la cohérence objective. On ne cherche pas du tout à prendre le temps de vous montrer que c'est rationnel. On n'a pas le temps. On vous affirme que c'est comme ça. Vous prenez la publicité aussi. Donc, on vous affirme... Vous voyez, c'est la différence entre la vraisemblance symbolique et la vraisemblance objective. Vous y croyez à cause de votre expérience et de manière intelligente, posée, réfléchie, ou vous y croyez pour des raisons affectives. Vous voyez, ça vous plaît, donc vous y croyez. Et si vous regardez bien, tout le phénomène des médias repose sur la crédibilité symbolique, pas du tout sur la crédibilité objective. Vous avez l'habitude qu'on vous parle de cette manière, on vous parle de cette manière-là. Ensuite, on peut vous faire passer n'importe quoi, pourvu qu'on respecte la manière dont vous avez l'habitude qu'on vous parle. C'est tout à fait connu. Et si vous regardez bien une émission de télévision juste après un morceau de publicité, ça fonctionne de la même manière. La manière dont on vous parle est la même. On vous affirme les choses les unes à la suite des autres. On ne vous demande absolument pas d'avoir du recul critique. On ne vous demande pas de discerner la crédibilité objective de ce qu'on vous dit. Sinon, vous n'écouterez plus la suite. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de croire. Et on ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Ce n'est pas du tout l'objet. Donc c'est important de voir que la crédibilité, la croyance, si elle est humaine, pour qu'elle soit vraiment humaine, elle repose sur la crédibilité objective. Je ne suis digne de croire que ce qui est cohérent par rapport à mon expérience. C'est pour ça que, par exemple, de croire à la réincarnation, prenons un exemple classique, croire à la réincarnation, objectivement, ça pose énormément de problèmes. symboliquement, ça peut, vous voyez, affectivement, ça peut être très séduisant. Mais si je prends le temps de réfléchir sur, vous voyez, sur les problèmes que ça pose par rapport à l'expérience que j'ai de la personne humaine, ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Même si affectivement, c'est satisfaisant. Donc, et puis ensuite, il y a les critères, effectivement, de plus le médiateur est crédible, plus c'est un sage, et plus je suis capable de croire quelque chose que je ne comprends pas. D'accord ? Mais c'est la même chose, c'est la sagesse du médiateur, et pas sa vraisemblance symbolique. C'est pas parce que c'est monsieur, je sais pas trop quoi, Zitrone, enfin il n'est plus là monsieur Zitrone, mais... C'est pas parce que c'est celui dont vous avez l'habitude d'entendre parler, ou le journaliste dont vous avez l'habitude d'entendre parler, que vous y croyez. C'est à cause de la qualité propre qu'il a quant au sujet dont il vous parle. Donc il y a des secteurs, vous croyez, quand un mécanicien vous dit que la voiture ne marche pas parce que c'est ça qui est cassé, vous y croyez parce qu'il est compétent. S'il se met à vous dire qu'il faut croire aussi à la réincarnation, il n'est pas compétent. Donc il y a des zones de compétence. C'est très complexe, hein, la croyance. Et en fait, on est peu critique, on a tort. Et surtout, ce qui est très important, encore une fois, c'est de faire la différence absolue entre l'expérience réelle et cette connaissance par la croyance. Là, je vous citais l'exemple inférieur, enfin maximal, qui est celui des informations, par exemple. Mais le lieu où la croyance a une importance positive, déterminante, c'est les traditions religieuses. Vous avez des milliers, même des milliards de gens sur la Terre qui croient à quelque chose qui dépasse l'homme. Ils y croient, ils n'ont pas du tout les moyens par eux-mêmes de le découvrir. Et toute leur vie repose là-dessus. Pensez à tout l'islam, à tout l'Inde. Vous voyez, et toute une partie du christianisme même. Où c'est à cause de la tradition. Vous voyez, on croit par la tradition religieuse, à cause de la dignité du médiateur. Mais je ne suis pas fait pour ça. Mon intelligence n'est pas faite pour rester dans cet état de croyance. Et c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est que la tradition, là je ne regarde pas au niveau de la foi, hein, mais la tradition les traditions religieuses chrétiennes sont passées au fil de la critique de l'objectivité. Les 2000 ans de la théologie, c'est d'avoir pris la tradition chrétienne et d'avoir vérifié qu'elle correspondait à la personne humaine. Mais ça, ce n'est pas fait encore pour les autres traditions. Ça, vous voyez, ça ne peut pas se faire à l'intérieur de l'islam, parce que ce n'est pas permis. Et ça ne s'est pas fait à l'intérieur de la tradition indienne. Ça a commencé à se faire pour une partie de la tradition indienne. Mais vous voyez ce que je dis, c'est que c'est l'expérience objective qui est la mesure. C'est la connaissance objective qui est la mesure. Vous voyez, en dernier lieu, je dois vérifier. Je ne peux pas croire quelque chose qui est contradictoire, non pas avec l'expérience subjective que j'ai, mais avec l'expérience objective. Si on me dit qu'il faut croire à la réincarnation et que l'expérience que j'ai de la personne humaine me montre qu'étant donné l'unité singulière et substantielle de l'âme et du corps, je ne peux pas avoir été à la fois un autre dans un autre corps, c'est pas possible. Tout le travail de la théologie, ça sera de voir comment est-ce que ce que Dieu me dit n'est pas impossible. Même la Trinité, le travail de saint Thomas sur la Trinité, ce sera de voir que ça n'est pas impossible, c'est pas incohérent. Donc si vous voulez, il y a un guide pour mon intelligence. Alors ce qui est très impressionnant, c'est que la foi, c'est un mystère la foi, hein. Mais ça a quelque chose de la contemplation et de la croyance. C'est ça qui est unique au mystère de la foi. C'est que la foi, elle implique à la fois un toucher de Dieu, un jugement d'existence sur Dieu, qui est infiniment plus parfait que toute contemplation de Dieu, puisque c'est une connaissance de Dieu tel qu'il se connaît lui-même. Et en même temps, un état de croyance. Parce que je n'ai pas l'évidence de ce que j'atteins. Oui, c'est ça qui est le problème du mystère. Et je ne peux pas... On va voir que la tentation, ça sera de choisir l'un ou l'autre. Et le propre du mystère de la foi, très souvent, pour aborder un mystère, on a besoin de deux analogies. Vous savez, c'est comme un bon plongeoir. Pour vraiment voir entrer dans le mystère sans me tromper. J'ai besoin de deux guides. bien là, le premier guide, c'est l'analogie de la contemplation naturelle de la personne et de Dieu. Et l'autre, c'est la croyance. Et effectivement, l'expérience qu'on a de la foi, c'est à la fois l'épreuve de la foi. Elle est du côté de la croyance, l'épreuve de la foi. C'est que mon intelligence doit adhérer à ce dont elle n'a absolument pas l'évidence. Je n'ai ni l'évidence du mystère de l'incarnation, ni l'évidence de l'existence historique du Christ, ni l'évidence du mystère de la Trinité, ni l'évidence du mystère de l'Eucharistie, ni l'évidence de ce qui se passe dans aucun des sacrements. D'accord ? Et en même temps, et on va voir que là, la médiation joue un rôle très important. Qu'est-ce qui me permet, qu'est-ce que Dieu me donne pour m'aider à croire? Et on va voir que la dimension, l'aspect affectif, l'aspect aimant est capital. La médiation que Dieu me donne, elle est pour permettre à l'amour, à la charité, d'aider mon intelligence à adhérer à quelque chose qui la dépasse complètement. Oui, Dieu va respecter ce. Mais il va demander à mon intelligence, non pas de s'appuyer sur la crédibilité, mais de s'appuyer sur le médiateur. Je ne crois pas parce que c'est cohérent. Je crois parce que c'est le Christ. Et uniquement parce que c'est le Christ. Alors ensuite, je vérifie que c'est cohérent. Mais ce n'est pas la cohérence qui va me permettre de croire. Il y a une distance infiniment trop grande entre ce que je comprends et le mystère auquel m'invite le Christ. Et on verra que c'est pour ça qu'au sens fort, la foi ne peut être pleinement contemplative qu'à cause du mystère du Christ. Il fallait que Dieu se déplace, si vous voulez. Il fallait que Dieu soit lui-même le médiateur pour que mon intelligence arrive à parcourir cette distance infinie qu'il y a entre ma pauvre connaissance quotidienne et le mystère auquel il m'invite à communier. Donc ça, c'est l'aspect de l'épreuve de la foi. C'est que dans la foi, mon intelligence adhère à ce dont elle n'a pas l'évidence. Mais en même temps, dans la foi, mon intelligence fait réellement l'expérience de la lumière de Dieu. C'est pour ça que la foi est un don. La foi, c'est pas simplement l'effort que je fais. Mais la foi, c'est une rencontre entre l'acte de mon intelligence qui adhère à ce que le Christ me dit et le don de Dieu, et le don de la lumière de Dieu. Et c'est ce don de la lumière de Dieu qui différencie de manière absolue la foi par rapport à la croyance. La croyance n'aboutit pas à la lumière. Vous pouvez croire de toutes vos forces à la réincarnation, vous n'allez jamais en avoir la certitude. Vous voyez, dans la croyance, je n'atteins pas ce en quoi je crois. Je ne l'atteins pas directement. Mon intelligence n'atteint pas la réalité dans la croyance. Alors que le propre de la foi, c'est que l'effort subjectif, vous voyez, l'acte humain qui est présent dans la croyance, l'acte de confiance, l'acte d'abandon de l'intelligence, l'acte d'adhésion qui est présent dans la croyance, est présent dans la foi. Mais la différence, c'est que dans la foi, il aboutit à un toucher de la réalité. C'est ça, si vous voulez, qui est magnifique, si vous voulez, dans la foi. C'est que en même temps, ça réclame de ma part un abandon, donc un dépassement de ce que je comprends, à cause de l'amour, ce qu'on va voir. Mais en même temps, il y a réellement une réponse de Dieu. C'est pour ça que la vérité de mon acte de foi, elle n'est qu'au terme de cet acte. Ou si vous voulez, je n'ai aucun critère subjectif. Vous voyez, je ne peux pas me reposer dans la foi. la seule preuve, ou si vous voulez, le seul témoignage, la seule attestation que j'ai de la vérité de la foi, c'est en atteignant Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est... Quand vous lisez Saint Jean, ou quand vous lisez Saint Paul, qui dit que c'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. C'est l'Esprit Saint qui témoigne. Et dans Saint Jean, c'est le Père qui témoigne. C'est Jésus qui témoigne. Mais ce qui est dur dans l'acte de foi, c'est que le seul témoignage que j'ai, c'est le mystère que j'atteins. C'est Dieu lui-même. Les motifs de crédibilité sont absolument pas suffisants. Ça veut dire que si vous vivez du côté de la croyance, si votre foi, vous la vivez du côté de la croyance, ça devient insupportable. Je n'ai pas les moyens de vivre la foi comme une croyante. C'est pas possible. Je ne peux pas croire au mystère du Christ, au sens de la croyance. Ça n'est pas possible. La seule manière de vivre la foi, c'est d'adhérer, c'est d'atteindre le mystère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la foi ne peut être que contemplative. Sinon, tôt ou tard, elle est plus vivable. Mais je ne peux pas croire au mystère du Christ comme les autres croient à la révélation du Coran. C'est pas possible. Je ne peux pas croire au mystère de la Trinité comme d'autres croient au texte sacré de l'Inde. Il faut qu'à l'intérieur de cette croyance, j'atteigne le mystère, qu'il y ait un toucher du mystère. En termes plus théologiques, mon intelligence doit être dans un état extatique, plaigné. C'est pour ça que la foi me laisse complètement pauvre. Ce que vous avez vécu dans la foi, vous ne pouvez pas le récupérer après. Vous ne pouvez pas réfléchir sur ce que vous avez atteint dans la foi. C'est normal, hein, parce que la seule chose que j'atteins dans la foi, c'est Dieu lui-même. C'est rien d'autre que Dieu. Je n'atteins rien d'autre qu'au sens strict. Hein. Le terme de mon acte de foi, il n'aboutit qu'à Dieu. Il n'aboutit pas à des vérités. Vous voyez, mon intelligence, elle atteint quelqu'un. Elle n'atteint qu'une seule réalité, c'est Dieu. Mais pour atteindre Dieu, je me sers du credo, je me sers, on va le voir, je me sers de l'écriture, je me sers des sacrements. Il y a beaucoup de médiation. Mais le risque de la foi, c'est de m'arrêter à la crédibilité ou à la médiation, ou au médiateur. Jésus avait raison. Ensuite, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il disait. J'y crois. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir, d'ailleurs. Je sais qu'il avait raison. Oui. Alors que ce qui est difficile, c'est que si Jésus avait raison, si Jésus m'a parlé, c'est pour que je croie à ce qu'il me dit, au mystère dont il me parle. Pas pour que je m'arrête à lui. Enfin, vous voyez, on se comprend. Pas pour que je m'arrête au fait que lui, il a raison et que ça suffit que je le sache. Sinon, il se serait tu. C'est ça qui est complexe, si vous voulez, dans la... Et ce qui est le propre de... C'est que je ne peux pas quitter l'un ou l'autre. Et que j'aurais la tentation, ou bien de réduire la foi à la croyance, de dire, voilà, la foi, ça n'est qu'une épreuve. Donc, j'ai à croire à quelque chose que je ne comprends pas. Et quand vous le poussez jusqu'au bout, c'est la position de Luther. Plus c'est absurde et plus j'y crois. C'est complètement absurde, mais j'y crois. Ça ne me dit rien du tout, ça ne correspond absolument pas à ce qu'est l'homme, mais j'y crois. Et plus c'est absurde, et plus c'est méritoire. Vous voyez, où à ce moment-là, je coupe complètement la foi de l'intelligence humaine. L'autre extrême, c'est l'illuminisme. C'est de dire, mais oui, dans la foi, on atteint le mystère de Dieu, on est divinisé dans la foi. Donc il n'y a plus d'obscurité dans la foi. On est en Dieu, c'est Malebranche. On voit tout en Dieu. Donc on est déjà dans la gloire. Et ce qui est rude, si vous voulez, dans la pédagogie de la foi est difficile parce que j'ai à la fois accepté d'être sur la terre, d'être pèlerin, c'est le mystère d'aujourd'hui, hein, c'est de la Toussaint, et en même temps d'être de l'autre côté. Et de croire que la foi me fait réellement atteindre, toucher le mystère de Dieu. Ou si vous voulez, d'une autre manière, à l'assentiment humain, il y a un assentiment humain, il y a une adhésion humaine, il y a un effort humain. Quand vous faites un acte de foi, c'est vous qui faites cet acte. D'accord ? Vous prenez l'initiative d'adhérer à ce que le Christ vous dit, d'adhérer à ce qu'il est. Mais à cette adhésion correspond et répond le don de Dieu. Et donc la foi, elle naît de cette rencontre entre mon adhésion est le don de Dieu. C'est pour ça que la foi est une épreuve et une lumière. Saint Jean de la Croix dira qu'elle est une lumière obscure. Si vous voulez, pour prendre ce qu'on avait dit ce matin, je vous avais dit dans la connaissance. Dans la connaissance, il y a à la fois précisément une assimilation, il y a une communion dans la connaissance humaine. Ça veut dire que j'apprends à lire de l'intérieur la réalité. Je me familiarise, si vous voulez, pour prendre des métaphores. Il y a une familiarité entre la réalité et moi par la connaissance. On dira qu'il y a une assimilation de la réalité. Quand on dit j'ai compris, ça prouve que, vous voyez, on s'est approprié la réalité. J'apprends à la découvrir de l'intérieur. Puis je vous ai dit, il y a quelque chose qui dépasse cette appropriation, cette familiarité, qui est le jugement. C'est que je touche la réalité. Et qu'en même temps que je la touche, je vois qu'elle est au-delà de moi. Ben, le propre de la foi, c'est qu'il n'y a pas ça. C'est ça qui est rude. Je ne peux pas rentrer chez moi. Vous voyez, quand vous faites une expérience, quand vous avez compris, ensuite vous pouvez réfléchir dessus. Vous revenez dans votre fort intérieur. Et vous réfléchissez, vous voyez, réfléchir. J'ai un concept, j'ai des concepts, c'est le fruit de ma connaissance, le concept. Je réfléchis dessus. Heureusement que le scientifique ne réfléchit pas que face à son canon électron. Ou que la mère de famille ne réfléchit pas que face à son enfant. Qu'elle a le temps de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire la prochaine fois pour ne pas se faire avoir de la même manière. Vous voyez ? Donc il y a une connaissance sur laquelle l'homme peut réfléchir. Et en même temps, il y a eu un jugement qui fait que la réalité, elle est autre que moi. Bien, dans la foi, il n'y a que le jugement. Il n'y a pas de nouveau concept. Vous voyez, il n'y a pas d'assimilation. Donc ce que j'ai atteint dans la foi, ça ne sert à rien que je réfléchisse dessus. Ça sera très important pour la théologie. Parce que la théologie ne va pas du tout consister à réfléchir sur des concepts ou sur des définitions. Ça va consister, c'est ce qu'il y aura de plus difficile, de réfléchir dans la foi. Oui, et on va voir que la parole de Dieu, elle ne s'éclaire que dans la foi. La parole de Dieu, vous pouvez y réfléchir humainement, c'est très intelligent. Ça ne vous donne pas la parole de Dieu. Ça vous donne une écriture intelligente. Et on va voir que la difficulté, c'est de réfléchir dans la foi, en atteignant en acte le mystère. Alors pour m'aider à ça, Dieu va me donner des médiateurs. Les deux grandes médiations, c'est la parole et le geste. Si vous regardez dans la croyance, pourquoi vous croyez à quelque chose ? Encore une fois, à cause de l'objectivité de ce qu'on vous dit. Et l'objectivité de ce qu'on vous dit, elle vous est communiquée par la parole. Et à cause de la dimension affective, ça vous est communiqué par le geste. Dieu m'aide à croire, et en même temps que je crois, à toucher le mystère dont il me parle, par la médiation de la parole de Dieu, par la médiation des sacrements. Vous voyez, ce par quoi, le moyen par lequel Dieu m'apprend à croire, c'est la parole de Dieu, c'est les sacrements. Et on va le voir, c'est le Christ, qui est plus que la parole de Dieu et les sacrements. Donc si vous voulez, une fois que je découvre à la fois l'offrande que mon intelligence doit faire, et l'offrande que mon intelligence doit faire, c'est de passer par cette pauvreté d'une non-évidence, par cette pauvreté d'une médiation qui fait que je ne suis pas maître de la foi, je ne suis pas maître de ma foi. Je suis dépendant de ce que Dieu veut bien me dire, de ce que Dieu veut bien me donner. Et ça, c'est l'offrande la plus grande pour l'intelligence, parce que l'intelligence n'est pas faite pour ça. C'est pour ça que la foi, saint Paul dira qu'elle implique l'obéissance. Il parlera de l'obéissance de la foi, ou de l'hommage de l'intelligence. Alors effectivement, vous voyez, si je vis au niveau de la croyance toute la journée, que je n'ai aucun sens de l'autonomie de mon intelligence, ça ne devient pas difficile de croire. Mais je crois au Christ comme je crois aux informations. Ou je crois au Christ comme je croirais à autre chose. Alors que c'est sûr, plus je découvre ce qu'est mon intelligence, plus je découvre qu'elle n'est pas faite pour la croyance, que la croyance n'est qu'une béquille provisoire. Et plus effectivement, cette adhésion à Dieu est un hommage rendu à Dieu, est une offrande de moi-même. Et ce qu'il y a de plus précieux à offrir en nous, c'est pas notre cœur, parce que notre cœur, il est fêlé. Ça, il est fêlé à cause des conséquences du péché originel, donc si vous voulez, on offre à Dieu quelque chose qui est déjà pas mal abîmé. Le Seigneur est heureux, mais dans notre amour, ce qui est le plus difficile à offrir, c'est ce qui en nous est intact. Et l'intelligence, elle n'est pas abîmée, pas directement par les conséquences du péché. C'est beaucoup plus difficile de perdre volontairement son autonomie que d'aimer quelqu'un qui nous aime. Vous voyez que mon intelligence se mette à penser en Dieu au lieu de penser en moi, c'est pas rien comme exil, comme exode, vous voyez, comme passage en Dieu. Et la foi, c'est ça. La foi, elle va faire passer mon intelligence de moi en Dieu. Parce qu'on va voir que rien ne va être exclu de la foi. Puisque c'est mon intelligence humaine, toute ma vie humaine va pouvoir être vécue dans la foi. Mais c'est important, vous voyez, de voir d'une part l'autonomie de l'intelligence, ensuite de voir l'épreuve de la foi, et enfin de voir le don de Dieu. Il faut voir les trois. Et si je mets l'un des trois, vous voyez, je ne rentre pas vraiment. Enfin, ma compréhension de la foi est nécessairement bancale. Si je ne vois pas l'autonomie de l'intelligence et la noblesse de l'intelligence, comment l'intelligence, c'est ce qu'il y a de plus noble dans la personne humaine. Parce que c'est la source de son autonomie. Et donc, et l'orgueil, ça sera présentement de choisir mon intelligence contre l'amour. Donc, si je ne vois pas la noblesse de mon intelligence, je vois plus la grandeur de la foi. Je ne vois plus l'épreuve de la foi. Donc, du coup, j'évite de donner mon intelligence à Dieu. Et surtout, je ne verrai pas la grandeur du don de la lumière de Dieu dans la foi. Si je n'ai pas soif de voir, la lumière de Dieu, je ne la recevrai pas. Si je n'ai pas soif de la lumière de Dieu, ma foi, ça sera quelque chose de petit. Ensuite, si je ne vois pas l'épreuve de la foi, je risquerai progressivement de confondre mon intelligence avec le mystère de Dieu. Je vous dis, Malebranche, c'est l'exemple typique. Et c'est aussi toute la tentation qui a été celle de la théologie à partir du XVIIe siècle, c'est de croire qu'on avait des concepts sur Dieu et de confondre la théologie avec la vision béatifique. De confondre la vérité dont l'Église était dépositaire avec le mystère de Dieu. Et de croire qu'on a la vérité. Et que nous, on a la vérité et les autres pas. Vous voyez, ça, c'est la suppression de l'épreuve de la foi. À l'inverse de Luther qui, lui, ne voyait que l'épreuve de la foi. Vous voyez, ça, enfin, les contraires s'appellent. Et la troisième chose, si je ne vois pas le don de la lumière de Dieu, c'est insupportable. Et c'est ça sans doute ce qui a le plus manqué. Vous voyez, c'est que si je vois que l'autonomie de l'intelligence est le sacrifice que Dieu me demande, et que je ne vois pas que cette offrande est ordonnée à recevoir Dieu lui-même comme lumière, c'est pas tenable. Vous voyez, à ce moment-là, j'ai une théologie ou une spiritualité du sacrifice, vous voyez, de l'offrande de l'intelligence qui en devient bête. Dans le sens que je ne suis pas fait pour tuer mon intelligence. Elle est faite pour mourir, mais vous voyez, pour renaître, pour ressusciter en Dieu. Et c'est important de voir que dans l'exercice de notre foi, il y a ces trois moments. Il faut avoir le sens de la dignité de ce que j'offre à Dieu. Je n'ai pas à mépriser ce que je lui donne. Vous voyez, Plus je découvre la grandeur de ce que je suis, plus je peux le donner à Dieu. Et donc plus je découvre ce qu'il y a de grand en moi, et plus je suis invité à le donner à Dieu. Alors ce qu'on va re-regarder, hein, tout à l'heure, d'abord vous me poserez la question, parce que je vois bien que cette deuxième partie, c'est la plus difficile, hein, parce que c'est ça le mystère de la foi. C'est comment se fait-il que le même acte soit un acte béatifiant, si vous voulez, qui me fasse déjà toucher quelque chose de la vision béatifique. Et en même temps, que ça soit un acte le plus pauvre qui soit. Quand vous faites des actes de foi à l'oraison, ça ressemble à la méthode Coué. Il faut voir les choses comme elles sont. Psychologiquement, c'est complètement débile, au sens étymologique du terme. C'est pas plus brillant qu'un enfant qui, vous voyez, se mettant à douter de ce que lui disent ses parents, se répète que ses parents ont raison, que ses parents ont raison, que ses parents ont raison. C'est pas plus brillant que ça, l'oraison. Point de vue psychologique. Vous dites à Dieu que vous croyez, et vous ne cherchez pas les raisons que vous avez de croire. Mais si vous restez du côté de l'effort psychologique, au bout d'un instant, vous dites « je suis fou ». Alors que si cet effort, il s'achève, vous voyez, dans un état extatique de l'intelligence, qui fait que l'intelligence accepte, par l'amour, d'être portée au-delà d'elle-même. Qu'elle accepte d'être portée au-delà de l'attitude psychologique, au-delà de l'effort même. Et nous, on reste dans l'effort. Alors on a trouvé ça dur. Bien sûr que c'est dur, mais celui dont on a vécu, il est infiniment plus béatifiant que la difficulté. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est important d'y revenir, parce que, enfin, réfléchir, parce que c'est très pratique les conséquences de ça. De voir que les épreuves de l'oraison et les grâces de l'oraison, elles sont, vous voyez, je dirais, toute la spiritualité de l'oraison, elle va dépendre de ça. De cette, enfin, pas cette claire vision, si vous voulez, mais de cette manière précise de regarder l'acte de foi. Donc vous me direz si vous voulez que je revienne sur tel ou tel point. Sur ce qui est vrai, pas le mystère, parce que ça c'est nécessairement un peu obscur, mais sur le reste.